dans le brin le vif de l'histoire. Les rendez-vous de l'histoire de Blois se sont ouverts hier soir dans la ville au château royal. Cette année, le thème en est le travail, mais on s'intéresse évidemment aussi aux dernières publications historiques, notamment celle-ci, une biographie signée Joël Cornette d'Anne de Bretagne, morte en 1514. À Blois.
Deux fois reine de France par son mariage avec Charles VIII, puis avec Louis XII, elle a résidé les années du règne de son deuxième époux dans le château de Blois, belle, grand, fort et plantureux. Alors le personnage d'Anne de Bretagne demeure entouré d'une double mythologie. Elle aurait été la duchesse en sabots, à cause de sa proximité supposée avec le peuple, et de par sa farouche détermination à défendre l'indépendance de son duché de Bretagne, une héroïne de l'Armorique. Alors à l'étudier dans sa réalité, on comprend que l'histoire de la France aurait pu tourner autrement. Après tout, d'autres états que le royaume capétien étaient en gestation. La Bourgogne, bien sûr, le Bourbonnais aussi, et la Bretagne, évidemment. Le duché n'avait qu'un petit million d'habitants, mais il se présentait d'un seul tenant, et sa prospérité, fondée notamment sur la fortune de la toile, pouvait faire envie. Jean Kerhervé a bien montré qu'il s'est peu à peu doté des structures d'un état, chancellerie, conseil, parlement, trésorerie, chambre des comptes, et, enfin, Anne a vécu dans une cour au château de Nantes qui aurait pu en remontrer à celle qu'elle connaîtra plus tard à Blois.
Alors, cher Breton, d'autres états que le royaume capétien étaient en gestation, mais ce sont les Capétiens, les Français, qui ont battu le duc François II, le père d'Anne, à Saint-Aubin-du-Cormier, 1488. Il est mort tout de suite après, laissant Anne 11 ans bien démunie.
Et contrainte, en 1491, à 14 ans, d'épouser le roi de France, Charles VIII. Mais Joël Cornette montre que dans le rapport de force avec la France, elle jouera de toutes les cartes qui pourront se présenter à elle. Ainsi, la mort prématurée de Charles VIII, dont la tête heurta malencontreusement un linteau de porte trop bas en 1498, lui en redonna soudain. Et rusée comme elle est, elle mena bien sa partie. Son premier époux lui avait tenu la bride en Bretagne et elle obtint de son deuxième roi, Louis XII, de gouverner son duché à peu près à sa guise. Il est vrai que Louis XII, qui sera surnommé le père du peuple, était un roi tempéré.
Anne est donc morte en 1514, et si elle était morte plus tard?
Elle aurait tenté d'assurer l'avenir de son deuxième enfant avec Louis XII, auquel son contrat de mariage assurait l'héritage de la Bretagne. Elle s'appelait Renée et s'avérera très douée, mais elle n'avait que 4 ans à la mort d'Anne. À lire Joël Cornette, l'événement décisif pour l'union de la France et de la Bretagne, ce n'est pas son premier mariage avec son premier roi, c'est son décès prématuré. Louis XII organise des obsèques d'une ampleur inouïe, les obsèques d'une femme aimée, mais les obsèques d'une reine de France, plus encore qu'une duchesse de Bretagne. Les cérémonies dureront 74 jours, 74 jours. Exposition du corps à découvert à Blois, puis à souveraine et notable princesse, faut-il pour jamais perdre la vue de votre noble face? Exposition du cercueil fermé. Au bout de 3 semaines, grand-messe. Et enfin, une procession de plusieurs milliers de personnes, une vraie ville ambulante, s'ébranle de Blois vers Paris. Alors nous sommes dans les frimas de février, les chemins sont boueux, incertains, mais on finit tout de même par parvenir à la capitale où un service grandiose a été préparé à Notre-Dame. Et enfin, c'est l'ultime étape à Saint-Denis. Un prédicateur dominicain accompagne de ses sermons ce grand charroiement. Anne étant morte à 37 ans, il célèbre en 37 éloges ses 37 vertus.
1514 donc, c'est un an avant le règne de François Ier, magnifique funérailles. Les Bretons auraient peut-être préféré que Louis XII y consacre moins d'argent et respecte le testament de son épouse.
Le testament, Bruno, où est-ce que vous avez mis un testament? Alors pour Joël Cornette, Anne en avait évidemment rédigé un pour faire valoir les droits de sa fille Renée. Eh bien, on n'en trouvera nulle trace. Faute de garçon survivant, Louis XII avait fait de François d'Angoulême, le futur François Ier, son héritier. Il l'a marié à la jeune Claude, l'aînée des filles qu'il eut d'Anne, et Renée s'en trouva éclipsée. Elle tentera plus tard de réclamer son dû, en vain, et François Ier aura eu le temps de siphonner la Bretagne, officiellement rattachée à la France, 1532, mais Anne n'a pas fini de faire parler d'elle, parce que le livre que lui consacre Cornette, c'est peut-être le 50e, et on ne sache pas qu'il y en a eu beaucoup sur Charles VIII et Louis XII.
Joël Cornette, Anne de Bretagne, s'est publié chez Gallimard et Intelligence Service. Samedi, ce sera à Blois, en public, en direct, amphithéâtre de l'abbé Grégoire, à 18h. Merci, cher Jean Lebrun. France Inter.